pour laisser deux minutes de plus à Daniel Ange, je ne le présente pas, tout le monde le connaît bien. Alors, vas-y Daniel. Voilà.
Alors, je suis super heureux de parler aujourd'hui. D'abord, c'est la fête de Saint-Marc. Et nous devons tous être des évangélistes, écrire l'évangile dans notre existence. Ensuite, c'est la cité de Catherine de Sienne que nous allons fêter dans quelques jours. Et pour moi, personnellement, c'est une année jubilaire, donc de jubilation, puisqu'il y a juste 60 ans, il y a quelques jours, je prenais l'habit dans un monastère bénédictin. Et sur ces 60 ans, ça fait juste cette année 30 ans de vie monastique contemplative et 30 ans de vie apostolique au service des jeunes. Ça fait 30. En plus, j'entre dans ma 30e année de sacerdoce et j'arrive à 333 petites virées missionnaires dans le monde. Voilà, ça fait des chiffres très trinitaires. Voilà. Et ça me touche énormément depuis un certain temps parce que de réaliser que je traverse quelques générations, puisqu'il m'arrive régulièrement de voir un couple, des parents qui arrivent, qui me présentent leur fille ou leur garçon de 15, 16, 18 ans en disant, ben voilà, quand j'avais 18 ans, j'étais entendu à Paris le Monial ou ailleurs et je veux maintenant que mes enfants de 18 ans t'entendent à leur tour. Alors ça me rapproche de mon éternelle jeunesse au ciel, mais je trouve ça fabuleux de pouvoir traverser comme ça les générations et de pouvoir maintenant évangéliser les enfants de ceux que j'ai évangélisés la génération d'avant. Voilà, c'est un grand bonheur. Grand bonheur de voir aussi tous ces fruits de la mission, de voir toute cette relève, tout ce qui lève pour vraiment continuer à annoncer le Seigneur par tout l'univers. Alors comment est-ce que je suis passé de ces 30 ans de vie monastique à 30 ans de vie apostolique? C'est tout simplement cette espèce d'électrochoc en rentrant d'Afrique après 13 ans au Rwanda et découvrir ce virus apparemment assez transmissible du désespoir dans le cœur de tant et tant de jeunes et surtout ce choc de réaliser que j'ai tout, je sais ce qu'il y a de l'autre côté de la mort, j'ai une grande famille, l'intimité avec les saints, avec les anges, j'ai une famille sur terre fantastique, je peux aller dans tous les pays du monde. Partout, je trouve des frères et des sœurs en Jésus, l'Église. Je reçois le pardon de Dieu, le corps et le sang de Dieu, la parole de Dieu. J'ai tout. Et là-bas, on se flingue parce que le cœur est complètement vide, comme le cœur de la petite Samaritaine. Comment faire ces transfusions de vie et d'amour? Comment connecter l'autel et le bordel? Voilà. Et c'est comme ça qu'est née finalement Jeunesse Lumière, il y a 26 ans cette année, avec Alex et Maude, en la fête de Catherine de Sienne précisément. Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 continents, figurez-vous. 5 continents géographiques et 2 continents intercontinentaux. Le premier, c'est celui de la jeunesse, qui avec cette espèce de rouleau compresseur d'une même culture internationale, nivelant toutes les cultures nationales, c'est la même jeunesse partout dans le monde. Et l'autre planète intercontinentale, c'est celle de l'Église, présente aussi dans tous les pays du monde. Donc un jeune qui a fait vraiment cette rencontre personnelle avec Jésus, c'est le seul qui peut vraiment évangéliser sa propre génération. Parce qu'il n'a pas à s'inculturer comme un adulte. Et l'inculturation aujourd'hui dans la culture jeune, quand il s'agit d'évangéliser cette planète jeune, est absolument capitale. Savoir détecter, repérer les semina verbi, comme disent les pères, ces semences du verbe qui sont là, présentes en toute culture, en toute religion. Et seul un jeune peut vraiment les détecter parce que... Ah, je parle trop fort. Ah, ce sera meilleur, tout à fait. Plus doux aussi. Voilà. Parce que c'est sa propre génération, il est encore et toujours jeune, il n'a pas à chercher à faire tout un travail pour se plonger dans l'actualité culturelle des jeunes. Et il va repérer, justement. Ce qu'il y a d'incroyable aujourd'hui dans des sociétés occidentales, c'est que nous pouvons partir comme point de départ d'un certain nombre de valeurs qui viennent du christianisme, qui viennent de l'évangile, mais personne ne le sait, et qui sont souvent retournées contre les chrétiens. Je pense par exemple à ce mot de compassion qu'on va employer à propos de l'euthanasie. C'est un mot typiquement chrétien, et voilà, et on va le retourner contre la vie, etc. Et donc c'est extrêmement intéressant de ramener à leur terre originelle ces valeurs humaines sur lesquelles, pendant un petit peu de temps encore, nos sociétés sont en train de vivre. Voilà, cette évangélisation des jeunes par les jeunes. Mais, il y a une chose absolument capitale. Là, je vais souligner 8 points sans les développer. Je les ai développés dans mon petit bouquin sur la mission, avec toutes les citations de Jean-Paul II, de Benoît XVI, etc., pour les, et des pères de l'Église. C'est que cette évangélisation, c'est d'abord la transmission d'un bonheur, la transmission d'une joie d'être enfant de Dieu. Plus je fais de Jésus la joie de ma vie, plus je suis sa joie, et donc plus cette joie est rayonnante. Ça donne envie d'être heureux. Je veux donner envie d'être heureux comme moi. La petite Cassie, dont je dirai un mot tout à l'heure, elle a été bouleversée parce qu'une camarade de son école lui dit « Je ne supporte pas de te voir toujours triste, je veux te partager mon bonheur. Viens avec moi à Avignon, à communion, pardon, je fais un anachronisme. » Voilà, partager ce bonheur. Et où trouver ce bonheur d'exister, ce bonheur d'être enfant de Dieu, c'est avant tout dans l'adoration. Et c'est la stratégie de Jeunesse Lumière. On évangélise par contagion de joie et on puise cette joie continuellement en Jésus, en son Eucharistie. C'est le buisson ardent. Et comme Moïse devant le buisson ardent, nous entendons au creux de l'adoration, ça a été mon expérience pendant 8 ans de vie hérémétique, nous entendons au creux de l'adoration les SOS de toute l'humanité. Moïse entend Dieu en train d'entendre les cris de son peuple. Il voit Dieu qui est en train de regarder la misère de son peuple et il est renvoyé vers son peuple. Mais il faut d'abord cette expérience vraiment du buisson tout en feu de l'Eucharistie. Car tout parle d'une expérience personnelle. Celui que j'ai vu de mes yeux dans mes frères, celui que j'ai touché de mes mains dans son Eucharistie, celui que j'ai entendu de mes oreilles dans sa parole, c'est lui que je vous annonce, que je vous propose pour votre plus grande joie. Et c'est pour ça qu'à Jeunesse Lumière, nous avons fait ce choix crucifiant, et moi-même j'essaie de l'observer pour moi-même, eh bien, de mettre l'accent sur cet enracinement dans la terre de Dieu, à tel point que nous partons en mission 4 fois par an pour 2-3 semaines, et tout le reste du temps s'est donné pour ce laboratoire de charité divine qu'est la vie fraternelle, pour pouvoir le transmettre aux autres. Tout ce qu'on y vit, c'est pour nous préparer plus tard et pour le transmettre aux jeunes, et surtout cette intimité amoureuse avec le Seigneur. Je n'aime pas ce titre, Jésus est le modèle du prédicateur. Mais il n'est pas du tout le modèle. Il est d'abord l'évangile en personne, et c'est lui que je veux faire rencontrer comme un petit Jean-Baptiste, comme un petit précurseur. Je veux conduire à une relation personnelle avec lui, à une rencontre avec lui. Et surtout, c'est lui qui annonce la vérité de Dieu en moi. Et une vérité qui s'impose par sa seule beauté. Faire resplendir la splendeur des mystères de la foi. Mais c'est de l'ordre de l'éblouissement. Rien que tout ce passage du book au face, ce n'est pas book face, c'est le contraire. C'est le passage du livre de la parole à la face, au visage de Jésus, à une personne qui a un visage, qui est éternellement vivante aujourd'hui, qui a traversé toutes mes souffrances, jusqu'à toutes mes agonies, jusqu'à ma mort, pour m'ouvrir le ciel, etc. C'est l'éblouissement. Et si je ne suis pas moi-même ébloui devant la beauté, être prophète de la beauté, je dirais que Jeunesse Lumière veut être une école de prophètes. Prophète de la vie, de l'amour, de la lumière, surtout prophète de la beauté. On veut fabriquer des petites sentinelles de l'invisible, comme l'a dit magnifiquement Jean-Paul II à Lourdes à propos de la femme, mais j'ose l'étendre à tous les chrétiens, comme dit l'Épître aux Hébreux, comme s'il voyait l'invisible. Avoir cette lumière du ciel qui se reflète sur notre visage et qui apporte justement cette clarté dans un monde tellement enténébré. J'ai déjà passé mes différents chiffres. Voilà, je dois maintenant regarder mon petit truc. Ensuite, quand on annonce la vérité dans sa beauté, je rejoins le plus profond de ce qu'une personne attend, désire, ce dont il a la nostalgie. Il n'y a pas un cœur humain qui n'a pas la nostalgie du ciel, la nostalgie d'un monde sans l'ombre d'une souffrance, d'un péché, d'un mal. Tous portent la nostalgie de Dieu. Et même quand il y a des réactions agressives qui sont finalement un système de défense, derrière, je sais que je rejoins la plus profonde attente. Je me souviens, dans une école de Montpellier, il y avait 4 filles qui ont réagi avec beaucoup d'agressivité. « Ouais, vous êtes complètement déconnectés, la chasteté, c'est vieux jeu. » Alors évidemment, c'était difficile de dire ça à des jeunes de leur âge, enfin de 18 ans, mais enfin tout de même. Voilà. Et après, au self, ces mêmes filles qui viennent trouver 4 d'entre nous, les larmes aux yeux en disant « Mais ça m'a bouleversé ce que tu m'as dit, tout à l'heure j'ai dû jouer le jeu devant mes camarades, etc. » Et quand à la fin de la mission, 10 jours plus tard, dans ce lycée, on a lancé l'appel « Qui veut commencer un petit groupe de prière et d'évangélisation dans son lycée ?» Ce sont les 4 qui se sont pointés, oui, qui avaient été les plus touchés. Et ce petit groupe a continué pendant des années ensuite. Donc nous rejoignons le plus. Voilà. Il y a aussi ce que Jean-Paul II a tellement souligné, que l'évangélisation, c'est la plus grande des charités, en parlant de Saint-Martin. Offrir la vérité, c'est la plus grande des charités. C'est le plus haut service rendu à l'homme. Jean-Paul II à Gernon, à Lyon. C'est le premier des services humanitaires. C'est le premier service social et politique et économique rendu à l'homme. Et c'est tellement facile de le prouver. Parce que d'abord, à quoi ça sert de travailler à élever le niveau économique d'un peuple, ce qu'il faut sûrement faire, si l'abondance des moyens se met à étrangler l'espérance et qu'on se suicide à tour de bras dans les pays les plus riches. À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être riche ? Voilà. Et ensuite, si vous réfléchissez un instant, c'est seul Jésus en son Église qui peut diminuer la souffrance dans le monde. Parce que 80%, peut-être 90% de la souffrance dans le monde, ce n'est pas dû au cataclysme naturel, aux tsunamis, aux éruptions volcaniques, mais l'immense majorité, c'est dû à une seule chose, le péché. Le péché. Le péché originel, actualisé dans les milliards de péchés aujourd'hui, de jalousie, de haine, d'impureté, de soif de pouvoir, d'avoir, d'écrasement des autres, d'injustice, etc., etc. Si vous ôtez tous ces péchés dans le monde, ce serait presque le paradis dans le monde. Or, qui peut détruire le péché à la racine ? Un seul, et c'est ce seul-là que je propose, qui peut, par son pardon, par sa transformation intérieure que l'on évoquait tout à l'heure, avec une efficacité incroyable, stopper tous nos esclavages, stopper toutes nos drogues différentes. Et si vous imaginez que si, après avoir rencontré le Seigneur, tu deviens au moins jaloux, haineux, plein de vengeance, de jalousie, d'impureté, etc. D'abord, toi, tu vas être bien plus heureux parce que ça te mine et te détruit du dedans. Et tout autour de toi, les gens vont cesser de souffrir de ta jalousie, de ta haine, de ta soif de pouvoir, de ton impureté, etc., etc., etc. Donc je fais reculer la souffrance dans le monde en attaquant l'origine même de la souffrance. Bon, je ne peux rien pour les éruptions volcaniques, mais pour tout le reste, je peux quelque chose. En moi et donc autour de moi. Mais c'est quelque chose de fascinant quand on réalise ça. Et donc l'évangélisation, ce qui humanise notre humanité. Nous avons fait l'expérience crucifiante de 2 totalitarismes qui ont complètement détruit l'humanité. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle idéologie totalitaire qui exclut l'homme du monde et de la société. On a fêté la chute du mur de Berlin, mais et on continue à ériger cet énorme mur de béton entre Dieu et l'homme, entre l'enfant et le jeune et l'Église, etc. Et quand Jean-Paul II est venu pour la première fois à Varsovie, il a eu ce cri qui a fait trembler le Kremlin. Et puis 10 ans après, c'était la chute du mur. Il a crié « Celui qui exclut l'homme d'une nation, il détruit cette nation. » Voilà, voilà. Et donc, nous tenons en main l'avenir politique de nos peuples, de nos pays. L'Union européenne n'a aucun espèce d'avenir. D'abord, c'est un énorme paquebot en train de couler comme le Titanic, parce qu'au niveau de la démographie, on ne sait même plus comment on va pouvoir payer les retraites dans 10 ans, etc. Il n'y a pas assez d'enfants, etc., etc. Donc, je travaille à cette transfusion de la vie. Si on est au toute éthique de l'économie, qu'elle se retourne contre l'homme. On en fait tout le temps l'expérience. Et donc, c'est un bonheur pour l'évangélisateur de savoir qu'il travaille à son peuple, à sa nation. C'est le plus beau des patriotismes. Il travaille à sauver son pays, d'abord en le rebranchant sur ses racines pour qu'il puisse continuer à porter des fleurs et des fruits, sinon il s'écroule, et en lui infusant, en transfusant ce sens de la vie, de l'amour de la vie, et qui va éviter des quantités de cataclysmes, même économiques, qui nous attendent très bientôt. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez conscience de cette formidable envergure, est-ce qu'on dit ça, comme ça, de notre évangélisation. Ça dépasse une personne, bien sûr, à partir d'une personne, mais au-delà, en multipliant, comme un réseau capillaire, comme ça. Où est-ce que j'en suis de mes chiffres? Je ne sais plus au service de l'homme. Voilà. Il y a une chose aussi importante, c'est les signes et les prodiges. Nous ne devons pas hésiter à demander au Seigneur de confirmer, comme dans la finale de Marc, de confirmer sa parole par les signes qui l'accompagnent. Il y a un texte très fort de Jean-Paul II où il parle de l'importance des signes, prodiges et miracles pour l'évangélisation dans les actes, dans toute l'histoire de l'Église. Et dit-il, aujourd'hui encore, le Seigneur continue à faire ces signes de sa miséricorde pour confirmer, soutenir l'évangélisation. Et il y a un texte très intéressant du catéchisme de l'Église catholique qui dit aussi toute l'importance en évangélisation et des miracles. Il faut les demander au Seigneur. Voilà, s'il ne les accorde pas comme il veut, mais c'est à lui de jouer. Seigneur, on ne t'empêche pas, si tu veux guérir un malade pendant notre soirée de louange, vas-y, n'aie pas peur. Voilà, je pourrais raconter. J'ai rien contre, Seigneur, vas-y, etc. Si vous lisez mon livre sur la mission, vous verrez un beau fioretti que j'ai vécu au Gabon là-dessus. Mais je n'ai pas le temps de le raconter. Voilà. Mais le plus beau des signes, c'est tout simplement notre existence. Et une évangélisation qui se veut opérationnelle. C'est-à-dire, nous conduisons des personnes à rencontrer Jésus dans son Eucharistie, dans son pardon. Et donc, ça va entraîner un changement dans l'existence de la personne. Je souligne juste un point capital aujourd'hui. C'est le témoignage rendu par des jeunes à la beauté, à la splendeur de la chasteté. Aujourd'hui, c'est impossible de rester chaste dans nos sociétés. C'est devenu de l'ordre de l'impossible. C'était peut-être possible il y a 50 ans, difficilement, mais possible. Donc aujourd'hui, ça relève du miracle. Ça relève d'une intervention personnelle du Saint-Esprit pour te donner la force de résister à ce terrible, vous voyez ce que je veux dire, médiatique, etc., etc. Et je voudrais donner un exemple, cet exemple magnifique de Jeunesse Lumière au Burundi, excusez le striptease, mais je le fais pour mes amis du Burundi qui sont là. Et Jeunesse Lumière, c'est 4000 jeunes répartis dans les 14 paroisses et qui font plusieurs engagements renouvelables à donner leur temps libre, leur argent de poche au service des pauvres, à ne jamais tricher à l'école, à ne jamais céder aux avances sexuelles et des profs ou des employeurs surtout, c'est le moyen de les payer pour avoir du travail. Eh bien non, je préfère être au chômage que de payer ce prix-là. Ça, c'est nos grands héros, c'est pas les Michael Jackson, c'est eux, ces petits Africains qui ont un courage extraordinaire, vous voyez. Et bien sûr, mais on peut les applaudir, parce qu'on applaudit la puissance du Saint-Esprit en eux. Il n'y a pas d'explication humaine à ce courage. Il ne peut venir que du Seigneur. Je me souviens, l'archevêque me disait, mais d'où ils viennent ces jeunes? D'où ils sortent? Mais c'est incroyable, ils ont une force d'âme. Oh, peut-être qu'à leur âge, je n'aurai pas le même courage. D'où ils viennent? Alors j'ai dit, mon Seigneur, ils viennent de leur jeune martyr de Bhouta. Ces 14 séminaristes, dont j'ai toujours de la photo avec moi, et qui ont préféré être tués dans leur dortoir à 5 heures du matin, je suis allé prier dans ce dortoir, je suis allé en pèlerinage, plutôt que d'être séparés par ethnie. Les martyrs de la charité divine, de la charité fraternelle, nous sommes tous enfants de Dieu. La moitié n'aurait pas été tuée, et ils le savaient. Pas un seul frère et sœur n'a accepté d'être séparé de ses frères. Ce sont des témoignages qu'il faut donner au monde, parce que ces martyrs qui non seulement nous boostent dans l'évangélisation, nous donnent le courage, mais surtout nous sommes leurs enfants, l'enfant de leur sang, de leur prière. Et il y a tant de martyrs aujourd'hui, nous avons en ce moment par milliers et des chrétiens qui sont publiquement lynchés, qui sont au fond des prisons dans 37 pays au moins, uniquement à cause de Jésus. Nous avons été convertis de l'islam qui subissent des persécutions inimaginables, qui sont condamnés à mort et qui sont vraiment ceux qui nous donnent le courage d'aimer Jésus jusqu'à être prêts à être tués et que toute notre famille soit punie. Et je termine avec les martyrs de l'évangélisation. Vous la connaissez toute, la petite Cassé, mais il faut en parler partout. Et sa petite sœur Rachel de 14 ans, pas la sœur de chair et de sang, mais dans la même école, trois classes plus bas, dans cette même école près de Denver, et qui ont été tués explicitement pour leur foi. Do you believe in God? Of course I do, dit la petite de 14 ans. So just go and join him. Voilà, ça c'est le martyr à l'état pur. C'est à cause de Jésus, parce qu'elle avait créé des cercles bibliques dans son lycée, parce qu'elle jouait à 12 ans des petites pièces de théâtre qu'elle composait avec un groupe d'ados pour aller jouer dans les prisons, les orphelinats, les hôpitaux, etc. Elle était bouleversée par le divorce de ses parents. Elle a voulu se venger par l'amour, en donnant de l'amour à tous les marginaux, à tous les élèves un peu marginalisés dans l'école, etc. Et pourquoi est-ce qu'elle a été tuée? Parce que deux jours avant, elle a été voir les auteurs d'un dégueulasse vidéo plein de meurtres et de viols, en disant « Je ne peux pas laisser des jeunes de mon âge dans ce monde de ténèbres d'aller leur parler de Jésus. » Et ils se sont vengés comme cela. Toutes les deux dans le même massacre de 13 lycéens. Ce sont les
mélanges.
Oui, voilà. Eh bien, je termine. J'obéis à mon cher évêque.
Merci.
Amen. Si on souffre du temps, c'est qu'on est fait pour l'éternité. C'est ça.
Sois-moi Seigneur dans ta bonté. Me voici devant toi, oh non. Me voici devant toi. Ta parole éclaire mes pas. Je viens t'adorer, te chanter.
Me voici.
Me voici devant toi. Ta parole éclaire.
Esprit Saint,
me voici pour t'adorer. Esprit, encore une fois, Esprit Saint, Esprit Saint. Nous présentons une dernière fois devant l'Esprit Saint. Nous lui chantons Esprit Saint, Esprit Saint, me voici.
Je viens vers toi
pour t'adorer.
Voilà, alors il sera pratiquement impossible de répondre à toutes les questions. Il y en a une, ça va aller très vite, c'est est-ce que Samuel pourrait nous donner quelques instants un aperçu de prédication ? Alors moi je lui propose de prendre un tabouret et quand il y aura devant la queue du self, il vous fera une démonstration. Comme ça, voilà. On a entendu le premier intervenant nous dire que le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et finalement, chaque fois qu'on accueille la parole ou que quelqu'un accueille la parole, il vit la fête, le mystère de Noël. C'est le Verbe qui prend chair en lui. Mais moi, je vous invite à aller jusqu'à la fin du prologue de Jean et de relire le dernier verset en modifiant un tout petit peu la traduction qui n'est pas tout à fait juste dans nos Bibles. Nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est tourné vers le sein du Père. Et c'est là où il faut bien traduire le Verbe. Lui nous l'a fait connaître et nous y conduit. Il y a une racine qui veut dire conduire et c'est important de pas de donner les deux dimensions. Car chaque fois que Jésus nous révèle le mystère du Père, il nous conduit jusqu'à lui et ça c'est merveilleux. Alors, je donne une question à Aubry. Vous avez parlé du piège du virtuel, car il y a quelque chose d'essentiellement pervers. Pourriez-vous développer cette idée ? J'ajoute un instant. Comment faut-il utiliser les vidéos, les images qui utilisent des concepts ou du marketing ou de la séduction ? Et je vous laisse...
voilà. Il faut que je lise, il faut que je décrypte. Enfin, encore une fois, ce n'est pas une négation de l'utilisation de tous ces médias, hein, il ne faut pas se tromper. Mais je pense qu'après, il faut investir pleinement tout ce qui est du domaine du concret, de l'incarné. C'est-à-dire, à la rigueur, ça peut amener, et bien évidemment, il faut être présent dans tous ces lieux, mais très vite se dire qu'est-ce que je vais faire pour ramener à la vraie vie. Parce qu'encore une fois, il y a une forme d'addiction aujourd'hui à l'Internet, on est tous victimes de cela, et je suis assez effrayé de voir, encore une fois, que ça devient un modèle dominant, qu'on n'imagine pas de croissance économique sans ce domaine-là, qu'en matière d'éducation, on veut tout mettre sur le domaine du virtuel, que dans les relations parents-enfants, dans tout ce que vous pouvez imaginer, on veut de plus en plus utiliser tous ces outils-là, en oubliant cette beauté, entre guillemets, de la chair, de nous qui sommes existants, dans nos corps, âme, bien sûr, et esprit, mais fondamentalement, de rester dans cette dynamique-là. Je pense que c'est fondamental que nous, les chrétiens, et particulièrement les catholiques, nous soyons très présents dans tout ce qui est incarné.
Voilà, alors il y a une question. Jésus fascine comme prédicateur. Les foules étaient frappées par son enseignement. Pourquoi y a-t-il si peu de prédicateurs dans l'Église qui frappent les foules ? Ne faut-il pas retrouver dans l'Église le charisme de la prédication ? Je vais demander à des laïcs de répondre. Alors Samuel et puis Aubry après. Et Odile également, si elle veut dire quelque chose.
En fait, l'expérience dont nous avons parlé, c'est une prédication très, très classique, très ancienne, mais c'est une prédication en dehors des murs de l'Église. Et en fait, on remarque que quand on parle de Dieu à des gens qui n'en ont pas entendu parler, justement, on le disait, plusieurs intervenants l'ont souligné, comme les gens ont soif, on leur donne un pack de Volvic, voire carrément une source qui jaillit du rocher. Et en fait, les gens s'arrêtent. C'est pas vrai que la prédication n'arrête pas les gens. Nous, on est des héritiers, lointains héritiers d'un monsieur, d'un prélat qui s'appelait Monseigneur Charles. Et déjà dans les années 50, c'est juste une petite histoire, ça dure quelques secondes. On lui disait, monsieur l'abbé, quand même, vous n'allez pas nous faire croire que les militants communistes en bas, là, qui prennent une bière, ils attendent Dieu et encore moins Jésus-Christ. Ouvrez la fenêtre. Non, mais attendez, monsieur l'abbé, quand même, soyez sérieux. Ouvrez la fenêtre. Alors, ils ouvrent, c'était au premier étage de la Sorbonne, maintenant, je ne sais plus ce que c'est, une librairie. Ouais. Et donc, il se met à parler au premier serveur quoi, qui servait les bières. Il dit, oh, Dieu, ça vous intéresse? Mais le regard dit, bah, bien sûr, oui, mais personne ne m'en a jamais parlé. Alors, les étudiants étaient soufflés, justement, parce que les prédications, souvent, qui nous endorment et qui sont soporifiques, c'est parce que peut-être que ces prédications ne sont pas à la racine, c'est-à-dire ce contact renoué entre un homme et son Dieu qui l'a oublié. Et là, à ce moment-là, ça fascine à chaque fois, quoi.
Oui, un petit mot pour compléter, je crois. On le voit avec Daniel Ange, je veux dire, il faut être habité par ce qu'on veut dire. Et peut-être que c'est un problème, c'est que souvent, de temps en temps, on ne l'est pas. De temps en temps, on ne l'est pas, on essaie simplement d'être conforme, on a très peur de dire une bêtise, on a très peur de ne pas être dans les canons, et donc on ne dit pas. Et en fait, il faut vraiment, c'est pour ça que la prière, et je suis très sensible à ce que vous disiez sur l'adoration, parce que je suis très sensible à ça, c'est vraiment là où on se nourrit, et après, on n'a qu'à ouvrir la bouche. Jésus nous le dit, hein. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il faudra dire. L'Esprit Saint qui habite en vous parlera. Et je crois que c'est vraiment accepter ça. C'est vrai qu'on peut s'ennuyer considérablement dans beaucoup d'homélies, dans les messes, hein, on va pas se leurrer, mais je crois que c'est beaucoup dû à ça, fondamentalement, à ce fait de ne pas être habité par ce que l'on dit.
Alors, il y a une autre question, là, Benoît va essayer d'y répondre. La foi vient par la prédication, dit saint Paul. Pourquoi ? La prédication est-elle donc la porte d'entrée, la première étape de l'évangélisation ? La prière, la louange, les sacrements sont-ils donc seconds dans la mission ?
Alors, évidemment, c'est tout un ensemble, mais il y a aussi un ordre, il y a une progressivité. Je crois que les sacrements, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Le but des sacrements, ce n'est pas d'abord l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, c'est l'adhésion à une personne qui se révèle à travers une parole. Mais bien sûr, c'est aussi porté par le témoignage d'une communauté, c'est aussi porté par la prière, bien sûr. Mais il y a un rôle unique et indispensable, et ça a été rappelé par Paul VI, ça nous l'a été dit hier, dans Evangelii Nuntiandi, de l'annonce explicite. C'est vraiment par cette annonce de la parole que le cœur peut être touché, mais dans un ensemble, évidemment. Et j'en profite pour répondre à une autre qui est un peu dans le même sens, finalement, sur les sacrements. On parle de la première communion, bon, je ne vais pas le lire en détail, mais je pense que souvent, il y a une ambiguïté au niveau de la catéchèse. Le but de la catéchèse, ce n'est pas de faire sa première communion. Excusez-moi, peut-être ça vous scandalise, mais le but de la catéchèse, c'est de mettre en communion avec Jésus. Et évidemment, sur ce chemin, il y a les sacrements. Alors évidemment, c'est le moyen éminent, c'est le sommet, la source et le sommet de la vie chrétienne, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas d'abord par ça qu'on va commencer. Et je crois que souvent, on se trompe. Et d'ailleurs, vous savez, je raconte une histoire, mais vous savez l'histoire du curé qui a des chauves-souris dans son église et qui ne sait plus comment s'en débarrasser. Il va voir un confrère qui lui dit « Oh ben t'as qu'à leur faire faire la première communion, t'es sûr que tu ne les verras plus le lendemain ».
Bien. Alors pour Daniel Ange, se confesser fait peur. L'annoncer aux autres semble impossible, à part les enfants qu'ils demandent à leurs parents. Comment faut-il faire ? Alors en 2 minutes.
Eh bien, c'est bien simple. D'abord, tu fais prendre conscience à la personne de ce qu'il souffre à cause d'un certain nombre de péchés. Et lui dit que je te propose le seul et unique qui peut détruire ce péché en toi et qui peut te rendre ta beauté divine, le salon de beauté de Dieu, la chirurgie esthétique divine. Pour le reste, vous n'avez qu'à lire mon livre sur le pardon, chirurgie esthétique divine.
Il y avait une question pour Samuel et Odile. Pourquoi donc être 2 par 2 pour évangéliser ? Chacun de son côté, on parlerait à 2 fois plus de monde.
Alors, en venant dans en TGV hier, je lisais Famille Chrétienne, ça m'arrive. Il y avait une question justement d'un enfant à Juliette Levivier, une petite fille de 11 ans, qui disait pourquoi les disciples sont envoyés 2 par 2. Et la réponse était très lumineuse. Déjà parce que témoigner de Dieu, c'est témoigner de son amour. Et pour aimer, il faut être au moins 2. Donc témoigner de l'amour de Dieu, ça suppose d'être 2. Et autre élément de réponse, un chrétien tout seul qui va évangéliser, c'est déjà très bien, il faut le faire, mais c'est un enfant de Dieu qui prend l'initiative de l'évangélisation. 2 disciples qui sont réunis pour annoncer explicitement le Christ, c'est l'Église. C'est déjà l'Église qui est là, c'est déjà l'Église qui appelle. Et donc c'est important d'être 2 pour ces raisons.
Et dans l'évangile, Jésus n'a jamais envoyé ses apôtres seul à seul. Et c'est toujours deux par deux. Et ça, je trouve ça bouleversant. Il appelle les disciples dans saint Matthieu par pair et il les envoie toujours par pair. Benoît, tu as des questions qui te sont arrivées.
Alors, deux questions. Une sur le lien avec les groupes de prière d'enfants. Alors, en deux mots, le parcours de catéchèse qui est proposé, donc c'est un parcours qui peut être utilisé, enfin là où il y a eu l'accord, bien sûr, évidemment, de l'évêque, hein, puisqu'il est conforme aux nouvelles directives sur la catéchèse, mais ça, bon, c'est à voir dans les diocèses. Mais il peut évidemment être utilisé pour des groupes de prière d'enfants, puisque vous l'avez compris, que le cœur de ce cheminement, c'est justement d'amener les enfants à ce contact avec Dieu. Alors, pour être plus concret, on me demande, est-ce qu'on organise des sessions de formation ? C'est là que je m'aperçois que je ne suis vraiment pas un grand communicant, parce qu'évidemment, j'ai oublié les tracts. Oui, on organise des sessions, on en organise une à Lyon, du 11 au 15 juillet. Alors, comment faire ? Il y a quelques tracts, peut-être dehors à la librairie, où vous pourrez trouver un mail. Sinon, si vous en les trouvez, s'il n'y en a plus, vous faites à Sudventoux en un seul mot, hein, c'est facile à se rappeler, Sudventoux @wanadoo.fr. Vous mettez votre et puis on vous enverra tous les renseignements. Voilà.
Moi, je voudrais dire un mot avec une certaine gravité. Je suis frappé actuellement. Il y a un document qui a été publié il y a quelques mois sur la première annonce dans nos écoles catholique. Et je suis atterré de voir que le mystère de la croix est complètement gommé. Tout commence dans un document comme celui-là, dans la résurrection. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre Église en France, on a une tendance dramatique à oublier que le kérygme, c'est l'annonce que nous étions morts à cause de nos fautes, et que la mort, en fait, le sens de mort, c'est la conséquence du péché pour les hommes. Et que la mort physique, d'ailleurs les chrétiens, ils appellent le jour de leur mort le dies natalis, les cimetières c'est les dortoirs, alors que chez les grecs, là où on met les morts, c'est la nécropole, la cité des morts. Mais la véritable mort, c'est le péché. Mais nous savons que dans sa miséricorde, Dieu nous a rendu la vie par son Fils, par le sang de son Fils, par le cœur transpercé de Jésus. Et si on n'annonce plus Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, eh bien on passe à côté, à mon avis, de l'essentiel du message chrétien. Et j'aimerais bien demander à Daniel Ange de dire un mot là-dessus aussi.
Oui, j'ai toujours cette croix depuis mon ordination, toujours. Nous, en évangélisation, quand on écoute, on est bouleversé du nombre de souffrances qui nous sont confiées. Même dans la rue, quand un groupe chante, et puis il y en a quelques-uns qui restent, il y a tout un ministère d'écoute bouleversant, des gens qui vont vous dire, mais ce que je vous dis là, je n'ai jamais osé le dire à personne, ni dans ma famille, etc. Et vous donne toutes ces charges, toutes ces croix. On ne peut pas ouvrir le journal télévisé sans voir des drames partout. Le monde est sans cesse confronté à la croix, à la souffrance. Et donc, évacuer la croix de catéchèse comme cela, c'est gravissime parce que c'est comme essayer de vivre dans une espèce de nirvana. Toute la croix, c'est la souffrance, c'est de l'illusion, ça n'existe pas vraiment, tu t'imagines, etc., etc. Alors que dans nos vies quotidiennes, nous sommes continuellement confrontés à la souffrance. Toute notre vie est faite de larmes. Lisez mon dernier petit livre sur les larmes. Voilà. Or, le seul qui peut essuyer les larmes et les transformer, comme dit Benoît XVI à Lourdes, en diamants. Il parlait et reprenait une catéchèse Jean-Paul II sur les larmes de Marie. En disant les larmes de Marie, où Marie pleure toutes nos larmes, où toutes nos larmes traversent les yeux de Marie après avoir traversé les yeux de Jésus, se transforment en sourire parce que c'est ces larmes de Dieu qui a pleuré toutes mes larmes qui seules peuvent me consoler. Et Jésus est le seul qui, par sa croix, qui devient la porte de la lumière et de la joie, m'introduit dans son royaume. Donc évacuer la croix, parler de la résurrection n'a aucune signification. Il ressuscite de quoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé avant? Il sort de quoi? D'un tombeau, et c'est quoi le tombeau, etc., etc. Vous voyez, et nous devons flasher la lumière de Dieu sur toutes les formes de souffrance d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra consoler. Et d'ailleurs, là aussi, humaniser l'humanité, parce que c'est ceux qui vivent avec Jésus, qui, dans les pires souffrances, les handicaps physiques, mentaux, les plus terribles, tout ce que vous voulez, dans des situations d'horreur, de guerre, eh bien, vous trouvez des baptisés qui vivent crucifiés, mais la joie, une joie du ciel, une joie qui n'est pas de la terre, que personne ne peut vous arracher parce qu'elle vient de Jésus, la joie des béatitudes, qui souffle la paix dans le cœur. Et là aussi, même si je ne peux pas supprimer une maladie, un handicap, etc., mais je peux la transfigurer de l'intérieur, et faire que cette personne, par sa rencontre avec Jésus, va pouvoir non plus subir cette terrible épreuve, mais l'accueillir et l'offrir dans la paix du cœur et parfois même le sourire aux lèvres. Et nous avons tous de ces témoignages bouleversants de grands malades, de personnes handicapées qui rayonnent autour d'eux, qui ont l'air bien plus heureux que des gens en pleine santé parce qu'ils vivent avec Jésus. Alors quand j'offre la personne de Jésus, mais Jésus traversant toutes les formes de mes souffrances, il a été calomnié, insulté, bon pour HP, etc. Il a dû fuir comme réfugié au milieu des réfugiés politiques, etc. Il a connu toutes nos souffrances. Et c'est lui que je propose et j'offre et qui vient donner sa joie céleste. Et donc je transforme une existence, une vie, même si extérieurement cette épreuve va durer toute la vie. Mais elle est transfigurée de l'intérieur, et ça c'est le mystère de la croix glorieuse, de la gloire crucifiée, de la croix source de lumière, source de gloire. C'est là qu'est ensemencée la gloire de Jésus en moi, quand je suis crucifié, mais pas tout seul, avec Jésus qui porte sa croix en moi. Est-ce qu'il n'y a pas d'hérésie dans ce que j'ai dit? Non.
Alors, il y avait quelques questions, mais là, je crois que c'est le jaillissement d'initiatives. Peut-on prendre des stands sur les marchés? Est-ce qu'il y a des expériences déjà faites? Est-ce que c'est réservé aux protestants? Moi, je pense qu'il faut avoir l'audace d'annoncer Jésus toujours et partout. Et puis, il y avait une autre, si on lançait le festival de la créativité et de la vie, comme branche de communion évangélisation 2011 à Toulon, ben pourquoi pas, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et puis, il y a une question, je ne sais pas qui d'entre vous veut y répondre, et le catéchuménat d'adultes et les suites d'intégration souvent difficiles des néophytes, la question contient bien sûr sa réponse. Y a-t-il un témoignage que nous puissions partager sur l'intégration des néophytes dans nos communautés? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut... Eh bien, vous n'avez pas l'air... Hein. Oui, alors, moi, je peux quand même dire que chaque année, je rencontre les catéchumènes, je rencontre ceux qui sont recommençants et qui vont être confirmés, et je peux vous dire que la confirmation d'adultes qui se fait dans la vigile de Pentecôte à la métropole, à la cathédrale, c'est un moment bouleversant où on voit l'esprit à l'œuvre. Et les rencontres que j'ai et avec les catéchumènes et avec les recommençants, c'est des moments où on touche du doigt l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et je voudrais vous dire une toute petite chose, c'est une catéchumène qui m'a dit ça, une jeune femme qui allait au cinéma sans arrêt avant, et un jour elle me dit: Monseigneur, je suis quand même, moi, je suis catastrophé de voir que moi, je mettais 10 euros pour aller voir un navet au cinéma, et à la messe, les chrétiens, ils ne mettent même pas un euro pour recevoir Jésus-Christ. J'ai trouvé qu'elle s'était dit avec ses mots à elle, mais elle était bouleversée qu'à chaque Eucharistie, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui se donnait à elle. Voilà, avant de finir, parce qu'on finira par quelques minutes de louange, je trouve que c'est bien qu'on respire la louange, et puis Samuel aura le temps de se préparer son tabouret pour le self. Je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont préparé ce forum. Je voudrais d'abord remercier la direction du Collège Saint-Joseph, l'équipe technique. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, que le gardien du collège, il a été d'une disponibilité pour ouvrir, fermer, pour être là en permanence. Voilà. Et si vous l'apercevez, n'hésitez pas à lui dire merci en direct. Hein. Et puis, je voudrais remercier tous les jeunes de l'aumônerie de Saint-Joseph. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle là? Il n'y en a plus, ils ne sont plus ici? Ah ben il y en a un au moins, non? Mathias, mais il est à Lyon maintenant. C'est un ancien, lui. Alors, en tout cas, merci à tous les jeunes de l'aumônerie de Saint-Jean. Merci bien sûr à tous les intervenants. Merci à l'animation avec le frère Baudouin et ses jingles. Il est où le frère Baudouin? Voilà, il peut se lever. Et merci à tous ceux qui ont permis l'animation musicale. Et puis, je voudrais remercier les 60 ou 70 bénévoles composés des communautés d'Avignon et de Toulon, des laïcs, des séminaristes, pour la logistique, la communication, la recherche de dons, le concert sur la place des Carmes et l'évangélisation de rue. Et puis, tous ceux qui ont couché ici, c'est grâce à la gentillesse des étudiants qui ont accepté de libérer un peu leur chambre pour qu'on puisse l'occuper. Alors je crois qu'on peut louer le Seigneur pour tous ceux qui ont ainsi participé et rendre grâce surtout pour l'œuvre de l'Esprit-Saint dans les cœurs qui continue à mettre le feu toujours et partout. Alors je vous propose qu'on termine ce forum par 5 bonnes minutes de louange.
Je ne sais pas louer,
pardon,
mais je viens t'adorer.
Pardon.
Reçois-moi, Seigneur, dans ta bonté. Non, je ne sais pas.
Je ne sais pas louer.
Non,
mais je viens t'adorer.
Reçois-moi, Seigneur, dans ta bonté. Me voici devant toi. Me voici devant toi, ta parole éclaire mes pas. Je viens t'adorer, te chanter.
Me voici.
Me voici devant toi, ta parole éclaire mes pas. Je viens t'adorer, te chanter.
Esprit Saint.